Europe Midi.
Romain Desarbres.
Le projet de loi pouvoir d'achat, la prime carburant, tout ça se précise. Est-ce que c'est à la hauteur de la situation? On en parle avec vous et avec Prisca Thévenot, porte-parole Renaissance, députée des Hauts-de-Seine, et avec Sabrina Sebaï, députée NUPES, Europe Écologie des Hauts-de-Seine. Voilà, ce sont les hasards de la programmation, comme on dit, de députés des Hauts-de-Seine aujourd'hui. Le texte va passer à partir du 18 juillet à l'Assemblée nationale. Le gouvernement espère le faire voter au plus tard début août. J'ai le sentiment, vous allez me dire si vous êtes, si vous ressentez la même chose, mais j'ai le sentiment qu'un compromis va être trouvé. Est-ce que c'est votre sentiment aussi, Prisca Thévenot, vous qui êtes dans la majorité?
Alors, je ne sais pas si c'est mon sentiment, mais en tout cas, c'est mon souhait le plus intime. Parce que, rappelons-le, c'est celles et ceux qui nous ont élus, les 577 députés, qui seront au final les juges de paix. Les juges de paix, pourquoi? Parce que ce qui nous occupe en ce moment à l'Assemblée nationale, aussi bien en commission, mais à partir de la semaine prochaine dans l'hémicycle, c'est de trouver des solutions pour les problèmes, les problématiques que nous ont adressées les Français, aussi bien pendant les présidentielles que pendant les législatives. Donc, nous devons agir dans les compromis. Bien sûr, il n'y aura pas de compromission. La Première ministre a été très claire dessus, mais il n'y aura pas d'immobilisme. Ce n'est pas entendable pour les Français de se dire que, dès cet été, il n'y aura pas des mesures de protection et de défense de leur pouvoir d'achat.
Parce que j'ai entendu Marine Le Pen qui disait je veux voter ce texte, et à la France Insoumise et à la NUPES, il y a une opposition, c'est normal, vous jouez votre rôle, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi une volonté de travailler avec la majorité. Qu'est-ce que vous en dites, Sabrina Sebaï?
Ce qui est certain, c'est que ce qui compte après, c'est les Françaises et les Français, donc c'est leur pouvoir d'achat. Aujourd'hui, nous, ce qu'on dit, c'est que le compte n'y est absolument pas dans le texte qui est proposé, et que la question, ce n'est pas tellement ce que nous, on est prêt à voter ou pas dans ce texte, c'est plutôt quel compromis le gouvernement est prêt à faire pour permettre d'améliorer la situation des Françaises et des Français.
Alors, rentrons dans le concret. Qu'est-ce que vous allez proposer chez Europe Écologie Les Verts?
Alors, il y a eu plusieurs propositions, puisqu'on a fait une proposition de loi sur
le
pouvoir d'achat. Là, c'est le SMIC à 1500 euros net. C'est une des propositions phares. Vous avez plein d'autres propositions.
Aujourd'hui, 1302 euros net.
Mais bien sûr. Mais aujourd'hui, les propositions qui sont dans le texte de loi ne rattrapent même pas l'inflation. C'est quand même une vraie difficulté quand on dit qu'on va limiter...
Pas de SMIC à 1500 euros net, vous ne votez pas?
Mais en tout cas, aujourd'hui, non. Il n'y a pas que ça, en fait. Il y a beaucoup d'autres mesures aujourd'hui qui ne sont absolument pas à la hauteur.
D'émission.
Non. Au contraire, c'est un débat. Attendez.
Oui, mais 1500 euros net.
Soyons très clairs. Déjà, j'aimerais juste rappeler quelque chose. C'est que l'inflation, malheureusement, n'est pas cernée et ne concerne pas que la France. Elle concerne l'ensemble de l'Europe. Et que, j'aimerais juste rappeler quelque chose... l'inflation en France est la plus basse de toute l'Europe, et c'est quand même en France aussi qu'on a le plus de mesures pour venir endiguer cette inflation et les effets sur le portefeuille des Français. Ce n'est pas anodin, puisque quand l'État agit, ce sont en réalité, c'est avec l'argent des Français qu'on agit, l'argent de tous les Français. Donc rappelons que nous avons un devoir de protection, mais un devoir de protection responsable. Il s'agit d'aider aujourd'hui les Français dans cette crise inflationniste sans venir accabler les générations à venir. Et cette responsabilité, nous devons la porter quand bien même nous sommes élus que pour 5 ans. Ça, j'aimerais le rappeler. Ensuite, le SMIC à 1500 euros. Je le rappelle encore plusieurs fois. J'aimerais bien peut-être un SMIC à 2000 euros, à 2100 euros. Mais rappelons aussi des réalités économiques, des logiques économiques. On le sait très bien, dans le privé, on n'augmente pas comme ça les salaires. Pourquoi ? Parce que ça a des implications par ailleurs.
On peut baisser
notamment...
les charges. Hein. Vous baissez
et
les
voilà,
charges.
Exactement.
Non, mais si vous baissez
et donc,
les charges,
je suis d'accord avec vous.
Augmente, hein.
Vous savez quoi? Je voudrais peut-être falloir venir à l'Assemblée avec nous en commission. Parce que c'est justement sur ce point-là que j'arrivais. Plutôt que de dire bouton magique, j'augmente les salaires. Ce qui ne se fait pas comme ça dans le privé. Ça ne se fait pas comme ça.
Vous
je travaillais. J'étais salarié dans le privé. Je finis, madame. Vous avez vu, c'est important dans un débat de finir parce que du coup, on va peut-être réussir à avancer ensemble. Vous voulez augmenter le salaire des Français, eh bien oui, on peut aussi le faire en baissant les charges et incitant ainsi à augmenter les salaires sans venir mettre à mal notre tissu productif. Parce que si notre tissu productif tombe, on ne crée pas de richesse, et quand on ne crée pas de richesse, on ne la redistribue pas. Au sein de la NUP, vous êtes très intéressé par la redistribution de richesse, mais j'aimerais rappeler quelque chose de très basique. Pour redistribuer, il faut d'abord créer.
Il faut déjà en gagner. Pierre, vous êtes retraité. Bonjour Pierre.
Oui, bonjour. Bonjour à toutes et à tous.
Bonjour.
Bonjour, on est ravis de vous avoir. Merci de nous avoir appelé, Pierre. Vous appelez de Saint-Raphaël, j'allais dire. Bon, c'est un grand classique, mais vous avez de la chance parce que c'est agréable d'habiter à Saint-Raphaël, hein.
Alors, j'habite Saint-Raphaël parce que je suis en retraite à Saint-Raphaël et que j'ai la chance d'avoir une compagne qui a une grande maison.
Ah bah.
Et je vis dans cette grande maison, mais c'est sa maison. Si ma compagne n'était pas là, eh bien, je ne pourrais pas vivre à Saint-Raphaël.
D'accord.
En ce moment, c'est peut-être pas le meilleur moment parce qu'on cuit lamentablement. Mais ça, c'est un...
Bon, ça, c'est autre chose.
C'est autre chose.
Bon,
c'est
vous n'allez pas vous plaindre parce qu'il fait trop chaud. Hein. Non,
exactement.
Je pense que vous allez faire pleurer personne. Allez,
malvenu.
Ça serait malvenu. On va parler de l'inflation. Vous vous dites tous les prix augmentent, mais les retraites n'augmentent pas. Alors, elles vont augmenter un petit peu, les retraites. Bon.
Oui, elles vont. Ça, c'est un futur, j'espère, qui sera relativement immédiat. Le problème, c'est que les indices de fonctionnaires que j'ai été bloqués depuis des années, la retraite, je ne me plains pas parce que je ne suis pas le plus à plaindre. J'ai une retraite qui tourne autour de 1600 et quelques euros, ce qui est déjà pas mal à ce que j'entends. Mais avec ces 1600 euros, il faut quand même, comme on dit, drôlement faire attention. Pourquoi ? Parce que les carburants ont augmenté. Je vais aller en vacances chez ma fille. Je pars demain, je vais en vacances. Il faut prévoir 1000 km aller-retour pour aller en Savoie.
Oui.
Il fera moins chaud d'ailleurs. Et le problème, c'est l'autoroute, parce qu'il est hors de question de prendre les nationales, autrement on va augmenter la consommation. Il faut payer l'autoroute, il faut payer l'essence. La voiture, je roule avec une voiture qui a 20 ans, qui est en parfait état, et il est hors de question que je la change pour l'instant. Je fais attention à beaucoup de choses. Il y a des dépenses plutôt plaisir que j'ai reportées à septembre, octobre. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas envie de me mettre en difficulté, de plus rien avoir à la fin du mois sur le compte. C'est quand même... on est obligé d'être attentif. J'étais moins attentif il y a quelques mois, mais vous allez
vous
en
ressentez,
montagne.
Vous savez ce que je vous propose de faire, Pierre ? Restez connecté avec nous. On va faire la petite pause publicitaire. On va écouter le flash, les dernières informations avec Émilie Dez, et on se retrouve juste après. C'est très intéressant ce que vous nous racontez. À tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
Il est midi et demi, merci d'être avec nous. Les débats continuent, on va retrouver Pierre dans un instant qui nous appelle de Saint-Raphaël. Mais tout de suite, c'est le flash, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité avec vous, Émilie Dez. Bonjour Émilie.
Bonjour Romain, bonjour à tous. Les chefs de l'Union européenne dénoncent le meurtre brutal d'un grand démocrate. L'ex-premier ministre japonais Shinzo Abe est mort quelques heures après avoir été victime d'une attaque par balle. C'était lors d'un meeting électoral. Un suspect a été arrêté, son domicile a été perquisitionné. Shinzo Abe avait quitté son poste de Premier ministre en 2020 après presque 10 ans au pouvoir. Accusé d'escroquerie, Michel Platini a été acquitté par la justice suisse. Le tribunal n'a pas suivi les réquisitions du parquet qui avait demandé 1 an et 8 mois de prison avec sursis à l'encontre de l'ex-président de l'UEFA. L'incendie qui a déjà ravagé près de 700 hectares de forêt dans le Gard va durer plusieurs jours. Toujours pas maîtrisé, il évolue favorablement mais reste attisé par un vent très fort. Vous êtes nombreux à prendre la route aujourd'hui, premier jour de départ en vacances. Bison futé hisse le drapeau orange au niveau national, rouge même en Île-de-France. Et si vous devez prendre l'avion, pas de perturbations à craindre, en tout cas pas à Paris. Les salariés ont voté la fin de la grève. À Bordeaux, en revanche, 50 vols ont été annulés suite à un mouvement du personnel de la société gestionnaire de la plateforme. Les résultats du brevet des collèges tombent au compte-gouttes. La plupart sont dévoilés aujourd'hui, mais certains collégiens devront attendre le 12 pour être fixé. Et puis le Tour de France, 7e étape aujourd'hui entre Tomblaine et la super planche des belles filles. C'est Tadej Pogacar qui a le maillot jaune sur le dos.
Merci Émilie, on vous retrouve à 13h. À tout à l'heure.
Europe Midi. Romain Desarbres.
Pouvoir d'achat, inflation, on en parle avec vous et avec Prisca Thévenot, porte-parole Renaissance, députée Renaissance des Hauts-de-Seine, et avec Sabrina Sebaï, députée NUPES, Europe Écologie Les Verts, des Hauts-de-Seine également. Et avec vous Pierre, merci d'avoir patienté. Vous nous appelez donc de Saint-Raphaël, on entend les petits oiseaux derrière vous, vous êtes retraité, vous nous disiez que vous partez en vacances demain, donc vous partez quand même en vacances, mais vous nous dites, je fais attention, vous allez peut-être, ce qu'on dit, vous savez, on dit qu'on peut éco-conduire, on accélère un petit peu moins, on essaye de consommer moins. Je connais les trucs.
Mais bien sûr, heureusement. Et si vous voulez, ce qui se passe, c'est que j'ai une voiture sur laquelle, bien qu'elle ait 20 ans, on peut mettre la consommation instantanée. Et alors là, vous prenez peur et ça vous apprend à conduire différemment, c'est-à-dire à pas accélérer, à accélérer progressivement, etc., de manière à ce que la consommation reste raisonnable.
Oui,
et on parvient quand même à faire des économies. Mais bon, tout le monde ne pratique peut-être pas de cette manière. Moi, je suis très attentif parce que un plein, c'est un plein.
Surtout en ce moment, je vous confirme. Pierre, vous avez une retraite de 1600-1700 euros par là, autour de là.
Bon, à peu près.
Il va y avoir l'augmentation de 4%. Si on doit faire des efforts, ça coûte de l'argent de faire des efforts, d'augmenter les retraites. Alors, est-ce que les retraités doivent être prioritaires ou est-ce que ce sont les jeunes, les actifs qui doivent être prioritaires? Est-ce qu'il faut... est-ce que c'est une priorité d'augmenter les retraites? Voilà ma question. Je mets un peu les pieds dans le plat, mais vous avez peut-être, des petits-enfants.
C'est une réponse extrêmement difficile. J'ai presque envie de dire que ce n'est peut-être pas moi qu'il faudrait augmenter en premier. J'entends autour de moi des gens, et si on se rappelle la genèse, les gilets jaunes et compagnie, il y a quand même des gens qui sont en bien plus grande difficulté que moi.
C'est vrai.
Et c'est ça que moi j'ai envie de dire, si on commençait par eux, ça, je crois que ça leur rendrait peut-être un peu le sourire. Parce que si moi je compte à 50, 60 euros près, vous avez des gens qui, eux, comptent à 5 euros près. Je caricature, mais on n'en est franchement pas loin.
On n'en est pas loin. Bah écoutez, il y a deux députés avec moi qui sont presque étonnés par votre réponse et qui vont commenter ce que vous venez de nous dire. Prisca Thévenot, porte-parole Renaissance et députée Renaissance.
Non, moi, la première chose que... Bonjour, monsieur. Moi, la première chose que je voulais vous dire, c'est pas tant que je suis étonnée, mais que, quelque part, je suis rassurée de cet esprit de solidarité qui continue d'exister et qui continue d'exister dans une bienveillance qui... depuis quelques jours, quelques semaines, quelques mois, on a l'impression qu'il a disparu. Et par contre, je vais me permettre de vous contredire, monsieur. Non, les retraités aussi, comme vous l'êtes vous, ont besoin de ce coup de pouce. Vous le dites très justement en début de votre prise de parole, que vous avez aussi besoin de faire attention. Vous avez notamment besoin de faire attention pour aller...
Mais là, vous avez raison. Mais je dirais que moi, j'ai jamais eu faim.
Oui, non, mais c'est pour ça.
Attendez, laissez-moi parler. J'ai jamais eu faim de ma vie. Vous avez le défaut des politiques. Laissez parler les gens, laissez parler les Français et vous en apprendrez beaucoup. J'ai jamais eu faim. Il y a autour de moi des gens qui ont faim tous les mois.
Et des retraités.
Faim. Avoir faim, je ne sais pas si vous réalisez ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on se prive. Ça veut dire qu'on va éventuellement se priver pour ses enfants. Et ça, moi, je suis désolé. Oui, j'ai besoin de... Vous me donnez 200 euros de plus, je vais les prendre. Ce n'est pas un souci. Mais j'ai envie de dire que je ne suis pas prioritaire.
Je vais intervenir juste pour recadrer. Quand j'ai dit ça, je ne voulais pas créer une concurrence. Voilà,
il n'y a pas de problème.
Voilà, je voulais juste dire. Certains retraités, voilà, on augmente toutes les retraites. Est-ce que ce sont pas les actifs qui.
Je me permets quand même de répondre, parce que je n'ai pas pu finir ma phrase, mais très bien, parce que le plus important, c'est de vous écouter, monsieur, et vous avez raison. Mais je me permets aussi de vous faire part. Moi, je viens d'un milieu ouvrier. Je sais ce que c'est d'avoir des fins de mois difficiles, même pas des fins de mois, des fins de semaine compliquées. Ce que je vous dis, c'est qu'il y a aussi des retraités qui ont des difficultés à boucler leur budget pour plein de raisons. Et donc, c'est pour ça que je ne suis pas là. Encore une fois, je finis simplement ma phrase pour qu'on soit clair dans mon propos. Il ne s'agit pas là d'opposer les fragilités des uns et des autres, mais de dire que dans une situation inédite dans laquelle nous sommes en ce moment avec la crise inflationniste, nous devons, et quand je dis nous, c'est l'État, venir protéger les Français là où les prix augmentent et surtout, et là je vous rejoins à 100%, les plus fragiles.
Là on est d'accord.
Sabrina Sebaï, députée NUPES Europe Écologie Les Verts, qu'est-ce que vous en dites de ces échanges,
Eh bien écoutez, déjà Sabrina, bonjour monsieur, et moi je suis très contente de vous entendre effectivement, parce que oui, aujourd'hui il y a des gens qui ont faim en fait dans ce pays. Il y a une grosse crise économique qui se ressent. Et quand j'entends dire des fins de mois difficiles, ce n'est pas des fins de mois difficiles. Les gens, ils sont dans le rouge dès le début du mois, en fait. Quand la paye, elle tombe, ils sont déjà à découvert pour payer leurs factures. Et pourtant, ils font l'effort de payer leur loyer immédiatement. Nous, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est qu'il faut répondre en deux temps. D'abord, des mesures d'urgence. Parce qu'il y a une crise, il y a une inflation très importante auquel votre texte de loi ne répond pas aujourd'hui, je suis au regret de vous le dire. Il faut des mesures d'urgence.
Là, vous vous adressez à la députée
absolument,
Renaissance.
À la députée
Renaissance. Mais ça, j'avais compris.
Donc, il faut répondre immédiatement avec des augmentations, avec des mesures choc, justement pour permettre à ces personnes de pouvoir vivre et de pouvoir respirer tout simplement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et travailler dans un deuxième temps sur des mesures de long terme pour pour permettre d'augmenter le pouvoir d'achat des Français. Aujourd'hui, ce texte de loi permet de limiter la baisse du pouvoir d'achat. C'est-à-dire qu'on a intégré le fait que les Français allaient avoir une baisse du pouvoir d'achat. Ce n'est pas acceptable. Et je vais même vous dire, il y a des mesures pour financer tout ça. Nous, on a proposé de taxer les grands capitales comme Total à hauteur de 25% qui permettent de financer tout ça. Vous, ce que vous avez fait pendant 5 ans et ce que vous allez poursuivre, visiblement, puisqu'on a écouté la feuille de route de Mme Borne, c'est que le ruissellement, pour vous, s'arrête au grand capital. Les Français ne touchent absolument rien du grand capital. Vous avez fait des plans de relance qui ont bénéficié à des grandes entreprises, qui ont fait des plans de licenciement en masse derrière. Et donc, c'est les Français qui passent à la caisse à chaque fois.
Alors, Prisca Thévenot répond à ce que vient de dire la députée NUPES Europe Écologie Les Verts.
Alors, première chose, c'est que le sujet des super-profits, oui, il faut y travailler. Le président de la République s'est prononcé dessus. Même l'Europe s'est prononcée dessus en permettant justement d'avancer sur ces différents sujets. Maintenant, j'aimerais juste qu'on rappelle quelque chose. J'aime bien quand on est toujours en train de passer notre temps, enfin, en tout cas, vous écouter, taper sur les patrons, sur ceux qui créent de l'emploi. Mais quand vous dites que les patrons s'enrichissent comme ça, simplement, j'aimerais juste rappeler qu'ils participent à redistribuer de la valeur de la richesse qui est créée par leurs salariés par le simple fait de verser des salaires. Et donc, oui, nous devons veiller à ce que cette redistribution-là soit la plus juste possible au sein de l'entreprise. Ça vous fait rire, pas moi,
mais
parce
oui,
qu'on parle des Français.
Ça me fait rire
et que,
parce qu'il y a une différence de salaire très importante entre les gros salaires
et les
petits. Et
justement, on va finir, madame, vous savez, empêcher de
et
parler.
Et quand vous parlez d'une taxation du grand capital,
pas.
Vous savez qu'il y a d'autres pays européens qui l'ont déjà fait, on est encore en retard.
Si on, si on travaille comme ça à l'Assemblée, ça ne va pas le faire. Et donc, le sujet qu'on a, c'est effectivement de faire en sorte qu'au sein de l'entreprise, ce partage de richesses qui est créé puisse se faire le plus juste possible. D'où la proposition qui a été faite pendant la campagne des présidentielles de pouvoir verser des dividendes, que s'il y a une redistribution qui a été faite par ailleurs aux salariés. Donc je pense qu'encore une fois, l'enjeu est bien celui-là. Maintenant, vous venez dénoncer a priori ce projet de loi qui vient d'arriver. Mais madame la députée, vous êtes députée comme moi. Vous savez très bien que le travail parlementaire, vous et moi, il commence et il a commencé. Donc bien évidemment, venez en commission, travaillons ces sujets, proposer des choses. Et ça m'étonne d'autant plus que je vous sens dans cette démarche-là, et c'est très bien, nous sommes aussi dans cette démarche-là, mais quand j'entends Jean-Luc Mélenchon, le grand leader de la coalition de gauche de ces législatives, sa grande proposition pour le pouvoir d'achat, c'est quoi? C'est d'appeler à marcher à la rentrée. Mais excusez-moi, l'enjeu, c'est pas d'appeler à marcher à la rentrée, c'est d'agir maintenant. Donc les effets de manche, c'est bien, le travail en commission, c'est peut-être mieux.
Olivier nous appelle de Loire-Atlantique. Bonjour Olivier. Vous êtes,
bonjour.
Vous êtes restaurateur. Vous êtes patron de votre restaurant ?
Oui.
Bon, alors bah tiens, on parlait des patrons justement.
Ça dépend lesquels.
Ça dépend desquels.
Si vous vouliez parler,
vous n'avez malheureusement
de
pas aidé les petits.
Donc le SMIC, si on va le monter à combien?
Tiens, on va écouter ce qu'a à nous dire Olivier. Qu'est-ce que vous pensiez de ce qui se disait sur les patrons? Parce que la gauche, la NUPES tape beaucoup sur vous. Bah, je vous écoute.
J'ai fait un grand virage. Hein. Je suis parti de l'extrême gauche, il faut bien dire, quand j'étais gamin. Et maintenant, je suis plutôt à droite. Ma condition, c'est un parcours plutôt classique. Ce que je sais, en tout cas, c'est que mettre les gens au travail ne remplit pas les urnes de la NUPES. Alors vous allez me dire, il faut que les gens mangent dans leurs mains. Plus vous allez maîtriser le revenu des gens en donnant, moins ils iront avoir des projets et moins plus ils vont voter pour la gauche.
Enfin,
Expliquez-nous.
Ben,
si vous voulez, l'exemple de Jean-Luc Mélenchon qui proposait 1063 euros pour rester chez soi. Comment voulez-vous? Moi, j'ai des filles qui bossent à 24 heures, 12 euros brut par mois dans mon resto. Dès le lendemain, elles arrêtaient parce que ça fait 950 euros net.
Ça c'était le revenu jeune.
La retraite à 23 ans, c'est ce que j'ai déjà dit l'autre jour.
La retraite à 23 ans, c'est vrai que donner 1000 euros à quelqu'un qui sans rien faire.
Alors aujourd'hui, on m'a posé le pouvoir d'achat. Je sais pas combien de pays osent titrer un 20 heures en disant gros problème de pouvoir d'achat. Et dans le même temps, entre 600 et 1 million d'emplois non pourvus avec les saisonniers et les remplacements de congés, combien est-il de pays sur cette planète qui osent les deux titres en enchaînement? Moi, je suis un peu effaré de voir que aujourd'hui, moi, j'ai besoin des remplacements d'été, j'ai besoin de prévoir aussi une embauche ou deux pour la rentrée. Je n'ai aucune candidature.
Vous embauchez à combien, Olivier?
Moi, j'embauche les débutants au SMIC hôtelier, qui est à l'entour de, un peu en dessous de 11 euros. Les filles, elles étaient à 12 euros. Elles sont à 12 euros brut. Au départ, elles étaient à 13% au-dessus du SMIC. Et moi, j'ai trouvé des gens, en fait. C'est pas vraiment le sujet. À l'époque, je trouvais des gens. Aujourd'hui, on ne trouve ni intérim, ni embauche.
Et pourquoi ?
Parce que, très sincèrement, je pense qu'on a dévalorisé complètement le travail. Et en fait, c'est une gangrène qui va gagner la plupart des salariés de ce pays. Vous voyez, quand moi, je n'ai rien contre la majorité actuelle, ni le président Macron, hein, il n'y a pas de sujet, mais vous voyez, nous, on prend les infos chaque matin en pleine figure. Vous comprenez ? On boit notre café et on ouvre, on écoute une radio nationale comme la vôtre. Et en fait, on entend, hein, les filles qui portent leurs assiettes ici, qui courent, hein, comme des bêtes, entendent qu'on va relever les minima sociaux, notamment le RSA. Mais les gens qui sont RSA, ils défilent chez nous. Alors, pas forcément chez moi, mais chez les confrères qui bossent soir et week-end. Ces gens-là, ils défilent. Ils bossent deux jours, trois jours, puis ils s'en vont, puis ils reviennent. Et on les reprend aujourd'hui. On les reprend parce qu'on n'a pas le... Donc, et les filles, là, ben ça, elles le prennent
vous nous dites que le travail ne paye pas assez. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que le travail ne paye pas assez et qu'il n'y a pas d'assez grande, une assez grande différence entre le salaire et les minima sociaux. Qu'est-ce que vous en dites, Sabrina Sebaï?
Que le travail ne paye pas assez, c'est une certitude. Quand on propose la revalorisation du SMIC à 1500 euros,
et inversement, c'est que les minima sociaux sont trop élevés, sont trop intéressants, permettent de vivre, confortablement, mais permettent de vivre.
Absolument pas. Le RSA aujourd'hui, on n'arrive même pas au seuil de pauvreté, donc on en est très loin en fait. Qui vit aujourd'hui avec en moyenne 500 euros par mois, c'est un RSA, c'est à peu près ça. Donc je suis désolée en fait, on ne peut pas dire que les minima sociaux sont très proches des salaires aujourd'hui. Par contre, le fait que le salaire aujourd'hui soit bas et qu'il faut revaloriser les salaires, ça c'est un fait, bien évidemment. Et je pense que là-dessus, on est tout à fait d'accord. Mais aujourd'hui, l'objectif, et d'ailleurs quand on parle de la garantie jeune, c'est pas de dire on donne sans rien faire. Aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui étudient et qui sont obligés de travailler en parallèle pour pouvoir étudier, pour pouvoir financer leurs études. Nous, ce qu'on propose, c'est de recréer une égalité pour tous et de permettre donc à ces jeunes de pouvoir étudier sans avoir besoin de travailler à côté. Et aujourd'hui, vous le savez très bien, le RSA n'est accessible qu'à partir de 25 ans. Les jeunes entre 18 et 25 ans, d'ailleurs qui ont été fortement impactés pendant la crise sanitaire, ils faisaient la queue pour des paniers alimentaires. On ne peut pas dire que ces jeunes-là, ils ne font rien. Ils ont travaillé, ils ont subi la crise sanitaire comme tout le monde, ils ont été obligés de faire la queue pour se nourrir, et on propose au contraire de les protéger.
Olivier, qu'est-ce que vous dites à cela ?
Mais où est le problème avec un étudiant qui travaille ? Alors là, aujourd'hui, vous m'entendez, vous dites « tiens, c'est un patron de restaurant ». Alors, madame qui vient de prendre la parole, mon père était RMiste dans les années 90, chômeur de longue durée en fin de droit, et RMiste. Il touchait 300 euros par mois. J'ai fait toutes mes études à la fac. C'est encore le cas aujourd'hui. Tout est gratuit, mis à part la mutuelle. Ouh là là, quelle horreur, il faut payer un petit peu de mutuelle, oh là là. Tout est gratuit. On fait le repas à 1 euro. J'ai fait une maîtrise de sciences économiques. J'ai fait 4 ans. Ensuite, j'ai bossé pour un grand groupe. J'ai dit oui à tout. Mon épouse était exactement dans les mêmes conditions. Un seul salaire, 4 enfants. On a bossé comme des bêtes. On a dit oui à tout. On est dans le pays où on peut s'en sortir. Il faut arrêter de pleurer. Et par rapport au pouvoir d'achat, je ne sais pas si vous avez les mêmes loisirs que moi. Sûrement pas, sûrement pas. Mais baladez-vous dans les centres commerciaux le vendredi soir et le samedi soir. Est-ce que vous avez déjà été garé aussi loin du cinéma ? Jamais. Tout est plein, archi plein. Donc, le pouvoir d'achat, je me demande quand même si ce n'est pas un os à ronger, quelque part, qui fait bien les affaires démagogiques d'un certain nombre de gens, parce que très sincèrement, pour avoir connu très sincèrement un père qui mangeait du lard tous les soirs, hein, je me demande quand même si c'est pas un peu comme Édouard Leclerc qui se demande s'il n'y a pas une volonté inflationniste par les fournisseurs qui font gonfler les prix et qui font la spéculation. Je me demande vraiment, quand on voit là, dans l'Ouest, on a eu 4 festivals majeurs. C'est 500 balles le week-end par personne. Hein, non mais, Poupée, Hellfest. Il y a du fric.
Heureusement, j'allais dire heureusement, Olivier. Sinon, plus personne n'irait dans votre restaurant, plus personne prendrait la voiture, plus personne n'achèterait une voiture, n'irait boire un verre. Enfin, on n'est pas un pays sous-développé. Non, on passe une crise, on traverse une crise. Mais il ne faut pas qu'on le devienne, ça je vous confirme.
Et ça doit passer. Comment vous expliquez que la France entière a besoin de bras et qu'on dise les Français ont un problème de pouvoir d'achat ?
Ça, c'est un sujet qui revient tous les jours dans Europe Midi. À chaque fois qu'on parle de travail, effectivement, on a du mal à comprendre qu'il y ait autant d'emplois non pourvus avec plus de 3 millions de chômeurs. Merci beaucoup, Olivier, de nous avoir appelé au 39-21. Il est 12h48. Les vacances débutent ce soir pour certains. Tiens, les députés prennent des vacances ou pas cet été ?
Non.
Non, pas du
tout. En tout cas,
non,
pas tout de suite.
Un petit peu au mois d'août, quand même.
C'est pas l'objectif. On n'a pas demandé à être élu pour répondre aux problématiques des Français, pour penser à nos vacances. On a beaucoup de travail sur la planche. On a effectivement le texte sur le sanitaire qui est là et qu'il ne faut pas qu'on oublie, parce que oui, nous devons continuer à faire attention à la crise Covid, mais on a aussi surtout le texte sur le pouvoir d'achat sur lequel il va falloir qu'on travaille. Et puis, c'est rajouté dans le calendrier, la motion de censure qui n'apporte aucune solution en français, mais qu'il va falloir qu'on étudie aussi.
Dans quel état d'esprit sont les professionnels du tourisme ? On est en direct avec Nicolas Devilliers. Bonjour Nicolas Devilliers, directeur du Puy du Fou. Merci de nous appeler. Les juilletistes démarrent leurs vacances ce soir. Comment se présente l'été en termes de fréquentation au Puy du Fou ?
Bah écoutez, la fréquentation est bonne et je pense que le Puy du Fou, suit la logique qui est celle de toute la France, c'est-à-dire que les grands sites touristiques accueillent visiblement du monde. En tout cas, nous, on voit vraiment une fréquentation qui est au rendez-vous, c'est-à-dire que les Français ont besoin de retrouvailles, on le sent. Ils sont très heureux de venir dans un lieu où on peut vivre des émotions en famille avec toutes les générations et c'est clairement une soif des Français. Donc, on voit aussi les étrangers d'ailleurs qui reviennent aussi petit à petit. Donc, disons que la saison est bonne et qu'elle augure une belle conclusion.
Une bonne conclusion. Plus de Français actuellement, nettement plus de Français que d'étrangers, hein, d'après ce que vous nous dites.
Oui. Ouais. Oui, clairement, parce que les étrangers commencent à revenir, les Néerlandais, les Belges, mais les Anglais ne sont pas encore complètement revenus et puis on ne retrouve pas les Américains ou les par exemple les clients asiatiques. Donc effectivement, on voit surtout des Européens et progressivement ils reviennent. On les avait complètement perdus en 2020 et 2021 bien sûr. Donc c'est une joie de les voir revenir sur le territoire français.
Vous faites travailler combien de personnes au Puy du Fou ? Tiens, on parlait emploi à l'instant. Il y a deux députés qui vous écoutent, hein, Nicolas Devilliers. Hein. Il y a une députée Renaissance, Prisca Thévenot, et une députée NUPES Europe Écologie Les Verts, Sabrina Sebaï. Vous embauchez, vous faites travailler combien de personnes ?
2500 talents travaillent au Puy du Fou, donc c'est beaucoup d'intermittents du spectacle pour certains, d'autres dans des contrats plus classiques. Ce sont des talents permanents, d'autres qui sont saisonniers, et nous avons beaucoup de métiers représentés puisque c'est 450 métiers le Puy du Fou. Vous savez, donc l'hôtellerie, la restauration, les métiers du spectacle, mais aussi des métiers plus discrets, les métiers de la blanchisserie, par exemple, vous voyez, des métiers de la sécurité, de la direction informatique, etc. Donc, nous avons un large panel de métiers et c'est souvent des jeunes qui nous rejoignent. Donc, la moyenne d'âge est très, très jeune puisqu'elle est à peu près de 24 ans dans nos équipes saisonnières. Ouais. Donc, vous voyez, c'est vraiment une formidable occasion pour les jeunes d'apprendre un métier au Puy du Fou et puis de se lancer dans la vie active.
Qu'est-ce que vous dites à tous ceux qui disent tiens, il faut augmenter les salaires en ce moment ? On en parlait aujourd'hui dans Europe Midi et c'est le sujet de la période.
Ben, vous savez, je crois que ce qui est important, c'est qu'à tout travail mérite salaire et qu'il faut que les salaires soient décents. Nous sommes très attachés à être au-dessus de notre convention collective dans l'univers des loisirs pour que les jeunes qui viennent travailler chez nous puissent s'offrir un logement, puissent s'offrir de quoi se nourrir et puis même, pourquoi pas, se divertir en dehors des heures de travail. C'est très important qu'effectivement l'épanouissement soit considéré aussi par la valorisation et la revalorisation des salaires à chaque fois que c'est nécessaire. Donc oui, nous sommes très attentifs à ça. C'est évidemment fondamental de faire les choses de façon juste et équilibrée pour que ceux qui sont plus anciens, ceux qui ont plus de risques parfois dans certains métiers, puissent percevoir un salaire qui correspond à ce risque, à cette prise de responsabilité pour certains. Vous voyez. Donc oui, les choses sont faites de façon la plus harmonieuse possible et on voit que chez nous, au Puy du Fou, l'atmosphère est sereine, j'allais dire presque familiale dans nos équipes, dans nos 2500 talents. Et donc, c'est la démonstration que le dialogue fonctionne bien à tous les étages avec toutes nos équipes.
Merci beaucoup, Nicolas Devilliers. Bel été à vous. Bel été au Puy du Fou et à tous les parcs de France, évidemment. Merci, Prisca Thévenot, d'être venue aujourd'hui dans Europe Midi. Belle journée à vous
merci
également.
À vous.
Et merci à vous, Sabrina Sebaï. C'était votre première participation à Europe Midi. Vous venez d'être élue députée NUPES, Europe Écologie Les Verts des Hauts-de-Seine. Et Prisca Thévenot, vous venez aussi d'être élue députée.
Merci à vous.
Merci à toutes les deux. On se retrouve dans un instant avec Richard Virenque. À tout de suite.